se faire plaisir, toujours au bon prix, chez Auchan. Jusqu'à ce soir, le kilo de pommes Pink Lady est à seulement 1,99€.
À ce prix-là, je tombe dans les pommes.
1,99€, c'est un prix qui ne rigole pas.
Et en plus, elles sont origine France.
Comme toutes nos pommes, c'est ça, le pouvoir d'acheter français chez Auchan. Auchan, avec plaisir. 1,99€, le kilo de pommes Pink Lady, origine France, variété Crips Pink, catégorie 1, calibre 170, 201 grammes. Existe en Barket Kids ou 6 fruits. Valable dans vos magasins et drive Auchan participants et en livraison à domicile.
Vous écoutez
RMC. RMC.
7h-8h.
Votre maison. François Sorel.
Christian Pessé.
Nous voilà de retour, le week-end des experts, la maison, Christian Pessé.
Oui, toujours là, Sorel.
On sera là tout l'été.
Oui,
bien sûr.
Bien sûr.
Voilà, vous le savez, hein, votre rendez-vous week-end des experts tout au long de cet été avec le jardin, la maison, tout à l'heure la forme, la santé, avec Christian Recchia et puis Raphaël Grabli, la vie numérique. Et puis demain, 3 heures d'automobile. Là encore, tout ça est là, hein, tout au long de l'été, les 3 heures d'auto avec Jean-Luc Moreau. Christian,
oui.
Quelle solution pour chauffer l'eau à la maison pour plus de confort et moins de dépenses?
Voilà,
parce que c'est vrai que si on peut en plus faire des économies d'électricité ou d'énergie, c'est pas mal.
C'est le but en ce moment. Alors on va parler d'ECS, eau chaude sanitaire, pour les professionnels.
OCS.
ECS.
Ah pardon,
oh, oui,
parce que OCS est une chaîne de télé, c'est pour ça que
voilà.
Je comprenais
pas. Non. Donc en cette saison, certes l'eau chaude n'est peut-être pas ce qu'on recherche forcément, mais on sait que malgré tout, il faut s'intéresser à cela, parce que d'abord l'hiver va arriver, mais surtout parce qu'on prend beaucoup de douches. On prend beaucoup plus de douches en été et on ne prend pas des douches froides. Oui, non,
espérons que vous ne prenez pas des douches froides. Beaucoup de douches.
Alors, nous sommes avec Antoine Dubost. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Vous êtes spécialiste chez Ariston, donc des questions de chauffe-eau. Ariston, c'est quoi? C'est une marque, à l'origine, c'est italienne?
C'est une marque italienne, voilà, qui fête ses 90 ans aujourd'hui.
Ah oui.
Et qui est international, on est implanté un peu partout dans le monde.
Très bien. Donc on va parler ensemble de globalement de chauffe-eau, on va dire, mais on sait qu'il n'y a pas que le chauffe-eau pour chauffer l'eau de sanitaire. Alors, est-ce que pour commencer, est-ce qu'on pourrait faire un petit état des lieux? On produit de l'eau chaude comment, avec quoi?
Alors, il y a quatre moyens principaux pour dire l'eau chaude sanitaire. D'abord le gaz avec la chaudière. Classique standard. Il y a aussi des chauffe-eau gaz qui peuvent.
Et le fioul aussi, si on a une chaudière.
Alors, le fuel, c'est ce que j'allais dire à la fin, mais le fuel tend à disparaître.
Oui.
Donc, qui est remplacé par des chaudières à condensation, donc avec le gaz.
D'accord.
Il y a aussi des chauffe-eau gaz qui peuvent être accumulation ou en instantané. Après, il y a le moyen par l'électricité avec le chauffe-eau électrique classique. Et aussi les énergies renouvelables avec le chauffe-eau, ce qu'on appelle thermodynamique, la pompe à chaleur et les chauffe-eau solaires.
Voilà. Donc là, on a à peu près la gamme. Le plus répandu, c'est quoi aujourd'hui? Ça reste ce qu'on appelait le Cumulus, d'une marque bien connue, mais c'est ça, c'est quoi? C'est
le chauffe-eau électrique classique qu'on peut trouver dans les appartements ou dans les maisons individuelles, avec la chaudière aussi. Ce sont les deux gros moyens pour chauffer l'eau chaude sanitaire aujourd'hui.
D'accord. Le fameux Cumulus, c'est quoi? Donc c'est une cuve généralement cylindrique.
Oui, c'est ça.
Hein, assez conséquente.
C'est une cuve cylindrique, alors ça dépend après des litrages, ça peut aller du 50 litres au 300 litres, ça peut être fixé à un mur, ça peut être posé au sol, ça peut être mis en horizontal, fixé à un mur.
D'accord. Alors là, on a une situation d'accumulation, c'est-à-dire qu'on chauffe l'eau et elle est gardée à température dans une cuve, c'est ça?
Exactement, c'est une résistance qui chauffe l'eau, qui est gardée à température et après qui sort par la sortie d'eau chaude et qui va jusque dans la baignoire, dans les éviers, etc.
D'accord. Alors, résistance, alors on entend parler de résistance stéatite, plongeante. Vous pouvez faire un petit... Parce que là, c'est pareil, on s'y paume. Hein.
Alors, il y a deux grands types de résistance. La résistance, tout d'abord, thermoplongée. C'est comme une bouilloire. Hein. Vous pouvez regarder dans votre bouilloire, vous avez une résistance qui va chauffer l'eau.
Ah, c'est la même chose.
Là, c'est la même chose en plus gros. C'est une résistance qui est directement trempée dans l'eau, qui va chauffer et donc qui va chauffer l'eau.
Et donc, qui s'entartre régulièrement.
Donc, il peut s'entartrer. C'est pour ça qu'on préconise des entretiens si l'eau est calcaire. Ça consiste en tous les deux ans, retirer la résistance, gratter, enlever le calcaire, puis la remettre. Ensuite, il y a la résistance stéatite. Là, c'est la résistance, c'est pareil, sauf qu'elle est dans un fourreau. Elle est protégée, donc elle n'est pas directement au contact de l'eau. Vous aurez un temps de chauffe un petit peu plus long.
Ah oui, c'est ça.
Vous aurez un temps de chauffe plus long, mais la résistance sera protégée.
Oui, mais est-ce que ça ne consomme pas plus du coup, parce qu'il y a une enveloppe et qu'il faut aussi chauffer l'enveloppe?
Non, concrètement, ça consomme la même chose. les deux consomment la même chose, justement, comme ça consomme la même chose, si vous voulez, la résistance statique va mettre un peu plus de temps à chauffer parce qu'elle chauffe pas plus. Il n'y a pas plus d'énergie, non.
Alors, j'ai vu une question d'anode aussi dans la cuve.
Oui, il y a une anode, voilà, qui sert à capter le tartre pour qu'ensuite la résistance fasse au maximum son boulot. C'est un peu un filtre. C'est comme un filtre.
Ça se remplace aussi, ça?
Ça peut se remplacer, oui, bien sûr. De toute façon, toutes les pièces détachées dans un chauffe-eau, vous pouvez commander à remplacer.
C'est assez simple, un chauffe-eau comme ça.
Ouais. Ça c'est assez simple, il y a pas de les chauffe-eau standards ronds, c'est pas sorcier. Si on s'y met un peu, on peut changer toutes les pièces soi-même.
Alors je vais tenter de vous dire pourquoi passer à autre chose. Si c'est simple, si ça coûte pas trop cher et si ça s'entretient facilement.
Et parce que maintenant on est dans la période des énergies renouvelables. Ouais. Alors il y a beaucoup de produits qui sont sortis récemment avec les énergies renouvelables, notamment les chauffe-eau thermodynamiques et les pompes à chaleur et les chauffe-eau solaires. C'est des chauffe-eau qui coûtent un petit peu plus cher, mais où la différence se fera sur la facture. Vous ferez à peu près 80% d'économie d'énergie avec un chauffe-eau thermodynamique par rapport à un chauffe-eau classique.
80% d'économie d'énergie
avec un chauffe-eau thermodynamique par rapport à un chauffe-eau classique.
Alors, petite explication sur ce qu'est un chauffe-eau thermodynamique. Il y a une pompe à chaleur.
C'est un chauffe-eau avec une pompe à chaleur qui est intégrée dedans.
Ouais.
Donc, soit il faut le poser dans une pièce suffisamment grande pour que la pompe à chaleur capte les énergies de la pièce, soit il faut gainer le chauffe-eau thermodynamique au mur, relié à dehors, pour que ça cache des particules extérieures, et ces particules vont se transformer en énergie, et cette énergie en chaleur.
D'accord. Alors, pompe à chaleur, quand même, petite explication, tout le monde ne sait pas, c'est un système qui permet de capter les calories qui sont dans l'air, éventuellement dans l'eau, mais là, on est dans le chauffage, mais c'est donc les calories qui sont dans l'air, et il y a un rapport de 1 à 4, en gros, c'est-à-dire que quand on consomme 1 kilowatt d'électricité, on en récupère 4 par la thermodynamique.
Exactement. Ouais. C'est ça, vous avez tout résumé.
Voilà. Alors, 80% d'énergie, c'est vrai que c'est alléchant, mais on va payer ce type d'appareil plus cher, j'imagine, qu'un ballon d'eau chaude traditionnel.
Bien sûr. Le ballon d'eau chaude électrique, en termes de prix, par exemple, on va dire un 150 litres, le particulier va le payer jusqu'à 850 euros en fonction du modèle de pose, du gabarit et de la résistance. Ouais. Un chauffe-eau thermodynamique, on peut facilement aller dans les 2000 euros, 2500 euros.
D'accord. Donc après c'est simplement une équation à faire.
Oui,
en combien de temps je vais l'amortir?
Exactement.
Il y a les aides, c'est-à-dire
les aides.
Voilà, un chauffe-eau électrique basique, il est absolument pas subventionné. Un chauffe-eau thermodynamique, dans certains cas, si on est par exemple à faible revenu, il va peut-être pas forcément coûter plus cher qu'un cumulus. Ça, c'est quand même à prendre aussi en compte aujourd'hui. Je pense que là aussi, je relance toujours et je dis renseignez-vous auprès des organismes officiels et notamment en allant chercher un conseiller sur www.fer.fr. On ne dira pas que je le répète pas. Hein. Si vous ne le faites pas, c'est vraiment que vous le savez, vous ne voulez pas.
On a des questions
qui sont
arrivées sur Direct Studio, Christian. C'est Jacqueline, par exemple, qui nous dit « J'entends que de l'eau s'écoule régulièrement sous mon chauffe-eau, dans le tuyau PVC en dessous de l'ensemble qui comprend deux boutons rouges et bleus. Est-ce que c'est une fuite? Est-ce que je dois le changer ?»
Ah, ça c'est un grand classique, monsieur Dubos.
Alors effectivement, ça peut être une petite fuite qui peut être liée à la pression du chauffe-eau qui est trop élevée. Dans ces cas-là, il vaut mieux mettre un réducteur de pression. Il peut y avoir cette petite fuite qui peut être liée, là malheureusement, à une corrosion trop élevée du chauffe-eau. Alors là, il faut directement appeler les services après-vente des fabricants si le ballon est sous garantie. Mais voilà, ne pas s'affoler si vous voyez un petit filet d'eau couler du groupe de sécurité. Appelez un plombier, voyez si la pression est trop élevée et surtout pensez bien à faire entretien à peu près une fois par an. Ouvrir le robinet du groupe de pression et le fermer pour voir si tout fonctionne bien.
Parce que en dessous donc de cette cuve, il y a ce qu'on appelle, vous venez de le dire, le groupe de sécurité. En fait, ce groupe, il a une triple fonction. C'est l'arrivée d'eau, c'est la vidange. Et c'est l'évacuation de la surpression, c'est ça?
Exactement, oui. Et il est indispensable pour tout chauffe-eau. Alors généralement, il n'est pas vendu avec le chauffe-eau, c'est une pièce à part, ce sont d'autres fabricants, mais c'est obligatoire. Pour tout chauffe-eau, il faut un groupe de sécurité, parce que justement, pour ne pas entraîner ces surpressions et ces petites fuites.
Voilà. Alors si ça coule en continu, donc là, c'est un problème sérieux, il faut le changer rapidement. Si ça coule de temps en temps, c'est normal.
Ça coule de temps en temps, c'est tout à fait normal. Il faut juste vérifier la pression. Et comme je le répète, surtout ne pas hésiter à mettre un groupe de pression, ça peut aider. l'été.
Oui, oui. Et là, vous l'avez dit, il faut de temps en temps, on ne le fait jamais, personne ne le fait.
Mais il faut le faire.
Il faut bouger, il faut ouvrir la vidange et faire fonctionner donc les trois vannes, on va dire, du groupe de sécurité. Une fois par an, il faudrait les bouger parce que après, qu'est-ce qui se passe? Il y a du tartre qui s'accumule dans la cuve. Lorsque la soupape fonctionne, se met en marche automatiquement elle-même parce qu'il y a une surpression. Qu'est-ce qui se passe? Ben, vous avez du tartre qui se glisse dans le clapet et le clapet il se ferme plus.
D'accord.
Donc c'est vraiment.
Alors que si on le fait régulièrement,
eh bien si on le fait,
on va enlever à chaque fois un peu le tartre qui va s'écouler en quelque sorte. Le tartre c'est vraiment un fléau, hein. C'est incroyable ça. Hein.
Oui.
Il n'y a rien à faire, en fait.
Si, un adoucisseur.
Oui.
Moi, je dis toujours, on peut, après trouver tous les systèmes du monde, l'adoucisseur, il enlève le calcaire, point barre. Hein, donc,
Et l'adoucisseur, il faut le mettre à l'arrivée d'eau de la maison.
Ah oui. Alors, moi, je conseille, parce que c'est, des fois, ça donne un petit goût salé, un peu désagréable à l'eau, et même sur un plan sanitaire, Christian Reca pourrait le confirmer, c'est pas l'idéal.
Oui, parce qu'elle perd une partie de sa minéralité.
Elle perd de sa minéralité. Et puis, sur un plan sanitaire, il faut faire attention à ce que les matériels soient bien entretenus. Donc, l'idéal, c'est d'avoir un bypass qui vous amène l'eau au robinet dans votre lavabo.
Donc, non traité.
Et puis, tout le reste, et notamment en amont des appareils qui ont des résistances, l'idéal, c'est à ce moment-là d'avoir effectivement un adoucisseur.
Ça coûte combien, un adoucisseur, Christian?
Ah ben ça peut être très variable. Beaucoup sont simplement en location, hein. Mais on va dépasser les 1000 euros, hein, 1000-1200 euros à peu près, hein, sur un modèle si on l'achète. Moi j'aimerais qu'on parle des perfectionnants parce que là on a donné l'impression que le chauffe-eau c'était vraiment un truc basique, qu'il y avait pas beaucoup de dépenser dedans. Mais il y a des trucs formidables en termes, il y a de l'intelligence artificielle maintenant dans des chauffe-eau. Ça apprend votre comportement. Comment ça marche ça?
Chauffe-eau intelligent, c'est beau ça quand même.
Exactement. Il y a quelques années, on a vu sortir des chauffe-eau plats en France. Ils sont des vannes, ils sont plats, ils font entre 27 et 30 cm de profondeur. Ça va du 45 litres au 80 litres. Si vous voulez, c'est des chauffe-eau qui analysent les habitudes de consommation du particulier. Donc, il va voir à quel moment le particulier prend sa douche et va chauffer son eau en fonction des heures à laquelle il aura analysé les habitudes de consommation.
Mais c'est suffisant, 80 litres pour une famille?
Alors, ce chauffe-eau plat, c'est un système un peu différent des cumulus standards. C'est un chauffe-eau, par exemple, pour un 80 litres, à l'intérieur du chauffe-eau, vous aurez deux cuves de 40 litres. Et pendant qu'un quelqu'un prend sa douche ou fait la vaisselle,
il chauffe l'eau.
L'eau se vide par la sortie d'eau chaude, mais se remplit aussi par l'entrée d'eau froide. Donc en fait, on dit qu'un chauffe-eau 80 litres a une capacité réelle de 150 litres.
D'accord.
Donc il y a ça, les habitudes de consommation qui sont analysées par chauffe-eau, c'est pour ça qu'on dit qu'il est intelligent. Il est pratique parce que c'est un gain de place et puis on peut le poser aussi bien en vertical contre le mur qu'en horizontal contre le mur aussi, toujours les sorties côté gauche. Et c'est un chauffe-eau aussi un peu écologique parce que par rapport à un chauffe-eau standard, un cumulus rond, celui-là il fera 12% d'économie d'énergie. Sur la facture, ça fait toujours plaisir.
Oui, c'est quand même pas énorme, quoi.
C'est pas énorme, mais c'est déjà ça.
L'intérêt, c'est quand même parce que c'est pas épais.
Design.
Ouais, c'est design. On peut le mettre dans la salle de bain, ce qui veut dire que on n'a pas, des fois, à attendre 3 minutes pour que l'eau arrive depuis le cumulus qui est dans la cave ou la chaudière.
Ouais, c'est ça. Et là, on a plusieurs types de résistances. La blindée thermoplongée, celle de base que j'ai expliqué tout à l'heure, et une résistance aussi protégée qu'on appelle dry dans la société, qui est une résistance protégée. Donc, pas de contact avec l'eau, pas besoin de vidanger le ballon pour faire l'entretien. Et par contre, sur ces chauffe-eau plats, c'est le même temps de chauffe que ça soit protégé ou thermoplongé.
Messieurs, on revient dans un instant. On a encore des choses à raconter.
On va parler un peu de solaire.
Ah, le solaire. En plein mois d'août, en plus, c'est formidable. Mais est-ce qu'au mois de novembre, c'est aussi bien?
Justement, on va voir. Je vais pas vous le dire tout de suite, non?
Moi, j'aime bien vous piéger comme ça, Christian. Pas notre invité, parce qu'il a l'air sympathique. Mais vous, vous avez tout vu. Hein. Ouais. Allez, on revient dans un instant. Le 32-16, l'appli RMC, Direct Studio. On est là jusqu'à 8h avec Christian PC. À tout de suite.
RMC jusqu'à 8h.
Votre maison.
RMC.
7h-8h.
Votre maison. François Sorel.
Christian PC.
Merci de vous réveiller avec RMC et merci d'être là pour ce week-end des experts. La maison avec Christian PC jusqu'à 8h. On évoque eh bien, l'eau chauffée.
Hein, l'eau chaude sanitaire.
Voilà, l'eau chaude sanitaire avec eh bien, toutes les solutions qui s'offrent à nous pour plus de confort et moins de dépenses. On en parle avec notre invité Antoine Dubost de chez Ariston qui, vous le savez, est le spécialiste mondial des systèmes de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire. On enchaîne tout de suite avec la question de Franz que nous avons reçue il y a quelques secondes par Direct Studio. Tiens. Franz qui nous dit « Je suis tenté par un chauffe-eau solaire,
oui.
Mais je suis près de Valenciennes et je me demande si ce sera rentable compte tenu de l'ensoleillement. »
Alors oui, c'est possible d'installer un chauffe-eau solaire même à Valenciennes, à condition d'avoir un petit chauffe-eau électrique d'appoint. Le chauffe-eau solaire, comment c'est très simple. Il y a des panneaux photovoltaïques qu'on appelle des capteurs qui sont sur
thermique,
le toit.
Thermiques
qui sont sur le toit, qui sont reliés à une canne et qui est relié à un chauffe-eau. Bon, dans ce chauffe-eau, il y a aussi une résistance électrique.
Pour suppléer justement le
moment. Voilà, qui est là en secours en quelque sorte.
Sauf que à Valenciennes, en plein mois de novembre, août-décembre, même la résistance qui est à l'intérieur du chauffe-eau solaire, elle va pas suffire. C'est pour ça qu'on préconise de mettre aussi un petit chauffe-eau électrique standard d'appoint. Après, ça va être rentable pour ce monsieur, même s'il est à Valenciennes.
Oui.
Parce qu'un chauffe-eau solaire, on peut considérer que ça coûte entre 2500 et 5000 euros. Mais
avant les aides.
Avant les aides, bien sûr. Mais ça dure 20 ans. Ça peut durer 20, 25 ans facile si c'est bien entretenu. Donc voilà. J'ai 80% d'économie d'énergie.
Votre avis ?
Oui, mon avis, c'est que il y a eu un boom dans les années 80. Après la crise pétrolière, paf, on a installé.
Tout le monde a dit le solaire, c'est génial.
Et puis, il y a eu justement ce type de déconvenu, on va dire. Alors, il y a eu une double de déconvenu.
Alors, la déconvenu,
c'est que quand il n'y a pas de soleil,
ça chauffe pas.
La résistance elle-même qui est dans l'appareil n'est pas souvent suffisante pour assurer le chauffage de l'eau. D'où le conseil judicieux de dire, ayez un petit ballon d'eau chaude quand même à côté, en complément de l'appareil. Et puis, il y a eu aussi des problèmes, il faut dire, d'installation, c'est-à-dire que toutes ces nouveautés qui sont apparues dans le domaine des économies d'énergie à partir des années 80, eh ben il y a eu beaucoup de fuites en toiture parce que ça se pose en toiture évidemment. Donc on a quand même une problématique générale d'ailleurs sur tout ce qui est rénovation énergétique, c'est qu'il y a des transversalités, c'est-à-dire qu'avant vous aviez un plombier, ben il faisait de la plomberie, vous aviez un couvreur, il faisait de la couverture. Maintenant on demande à une entreprise d'être en même temps couvreur et plombier, et puis un petit peu électricien aussi, parce qu'il faut faire du branchement. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention, et je le dis toujours aussi, entreprise RGE spécialisée dans ce domaine. Et puis il faut dire aussi que la thermodynamique, ça, il y a eu la concurrence du chauffe-eau thermodynamique qui pendant un moment a fait plonger complètement le chauffe-eau solaire. Aujourd'hui, le chauffe-eau solaire ressort du trou, si j'ose dire, et commence à être à nouveau prisé.
Alors, moi, j'ai une petite question.
Oui.
Sans doute pas très, un peu bête, mais.
C'est normal.
Venant de moi.
C'est vous qui l'avez dit, hein.
C'est normal. Mais vous savez que je me fais aussi la voix des auditeurs.
Oui. Donc, et vous pensez qu'ils sont bêtes?
Ne commencez pas à insulter les auditeurs.
Alors, c'est pas très gentil. Ça serait pas bon.
Non. Comment ça fonctionne, en fait? C'est ce système de panneaux photovoltaïques. Créer de l'électricité qui chauffe après un ballon, ou est-ce que c'est simplement la chaleur récupérée qui va chauffer l'eau?
On est dans deux technologies différentes, le chauffe-eau solaire thermique et le panneau photovoltaïque. Alors on peut imaginer de coupler les deux, ça existe aussi. Hein, vous avez donc vos panneaux solaires avec donc un liquide caloporteur qui va chauffer ensuite l'eau, et puis vous avez le panneau photovoltaïque qui lui aujourd'hui, puisque l'autoconsommation est véritablement à l'ordre du jour, on vous incite à autoconsommer l'électricité que vous produisez. Donc l'électricité que vous produisez peut aussi servir donc à la partie résistance et à la partie le ballon annexe qu'on évoquait. Tout ça va être dans les complémentarités. C'est au goût du jour. C'est cette complémentarité des énergies.
Très bien. Et évidemment, plus on est dans le sud, plus ce système d'énergie solaire fonctionne. On est d'accord.
Oui, mais d'un autre côté, quand on est dans le nord, l'endroit où il y a le plus de panneaux photovoltaïques et thermiques, c'est en Suède et en Norvège, parce que évidemment, vous avez le gain du fait qu'il fait froid. Donc, au lieu de vous chauffer avec des énergies coûteuses, eh bien, les énergies renouvelables deviennent d'autant plus intéressantes. Vous voyez, c'est un petit peu un paradoxe.
Oui, c'est ça. D'autres sujets à évoquer avec l'eau chaude.
Je pense qu'on a le prix, l'ordre de prix, c'est quoi? On a vu qu'un cumulus, en accumulation, ça coûte 3 euros 6 balles.
Mais après, il y a l'installation, j'imagine.
L'installation, ça c'est très simple justement de ce type d'équipement. Mais alors des matériels un peu plus sophistiqués. On a vu les coûts d'un thermodynamique, etc. Mais votre chauffe-eau intelligent là, comment vous l'appelez?
Alors le chauffe-eau plat, il s'appelle le Vélis, cher Ariston. Il va de 464 à 670 euros en fonction du type de résistance,
c'est pas
du
quand même
capacité
une fortune,
de litrage. Non, c'est pas une fortune, et c'est pour ça que dans les appartements ou dans les petits pavillons, c'est hyper demandé, hyper prisé, parce que c'est intelligent, ça coûte pas trop cher.
Les instantanés électriques, c'est quand même pas très c'est très gourmand. Hein.
Alors qu'est-ce que c'est que ça?
Eh ben, vous pouvez avoir un petit chauffe-eau qui chauffe l'eau
à la demande, en
continu,
quelque sorte.
À la demande.
Que l'eau passe dans une résistance.
Voilà, c'est ça.
Qui va la chauffer instantanément.
Voilà. Sauf qu'il faut beaucoup de puissance. Ce qui veut dire que le chauffe-eau lui-même n'est pas forcément. Alors l'avantage, c'est qu'il ne chauffe que l'eau que vous utilisez. C'est pas à la différence d'un accumulation qui
tout dépend de la consommation d'eau chaude qu'on a finalement.
Et donc ça peut être intéressant. Le gros inconvénient, c'est qu'il faut amener une ligne extrêmement forte.
Ah oui.
En section, c'est-à-dire plus de six carrés comme on dit, c'est-à-dire des fils qui sont extrêmement.
Mais ça consomme plus qu'un fer à repasser par exemple.
Bien sûr. Et surtout, il va falloir un abonnement en conséquence. Ça se discute, comme on dit.
Après, un petit ballon d'eau chaude, un tout petit, par exemple, pour la cuisine, par exemple, ça peut avoir du sens pour ne pas attendre fait que l'eau se réchauffe.
Ça permet d'éviter les longues canalisations, on peut dire aussi.
Oui, bien sûr. On a des petits ballons entre 15 qui font 15 ou 30 litres qu'on peut mettre au-dessus d'un évier. Et ça sert pour faire la vaisselle, et c'est destiné que à ça. Donc il n'y a pas besoin d'avoir le chauffe-eau à l'autre bout de l'appartement ou de la maison.
Voilà, presque le lave-main, quoi.
Ouais, c'est...
Parfait, écoutez, merci beaucoup. Merci à notre invité Antoine Dubos de chez Ariston. On repart avec les questions, Christian.
Oui, allons-y.
On y va. Odile est avec nous au 32-16. Bonjour Odile.
Oui, bonjour, je suis contente de vous avoir.
Bonjour Odile.
Pareillement Odile, bienvenue sur RMC, on vous écoute.
Merci. Alors, j'ai une maison du début du siècle, on a voulu la rénover en 2011.
Du siècle dernier.
Oui.
Pas de ce siècle-là. Pas de ce siècle-là.
Non, très ancienne. Et rénover à l'intérieur, ça veut dire qu'on l'a stabilisé, mais il y a un perron. Et le perron, petit à petit, on s'aperçoit qu'il y a des problèmes. C'est-à-dire qu'on a des fissures horizontales autour de la porte d'entrée et verticales sur les côtés, dans tout ce qui relie la maison et le perron. Et une balustre, une seule balustre qui se fissure aussi.
Bon, vous me dites, vous l'avez stabilisée la maison, oui. Pourquoi elle se fendait?
J'ai été sur vos conseils d'il y a longtemps, j'avais entendu que on a tout enlevé à l'intérieur et on a fait des piliers.
Ah d'accord.
Des piliers qui ont stabilisé, on a fait une chape de béton pour le premier étage, pour le rez-de-chaussée. Et c'était en écoutant vos émissions que j'ai pu avoir cette idée-là. Et donc, le perron n'a pas été touché. Mais moi, je pense que c'est quand même lié, le fait qu'on ait des fissures après. Enfin, depuis 2011, on ne s'en sort pas bien.
Des choses. C'est simple. Vous aviez une maison avec son perron qui bougeait. Parce que toutes les maisons bougent un peu. Le perron est solidaire de la maison, ou l'était, parce que d'après ce que j'ai compris, il est en train... partir.
Petit à petit, on découvre, oui.
De partir en vacances, le perron. Il est...
Oui.
Donc, votre maison, elle bouge plus, ou elle ne bouge plus de la même façon que le perron. Donc, vous avez fatalement une fissuration qui se produit entre les deux. Malheureusement, moi, je pense que, en espérant, parce que d'après ce que vous me dites, la maison, elle ne bouge pas, elle ne se fissure pas, ça a été la bonne solution.
Non.
Bon.
Non.
Donc, c'est le principal, quand même. Il vaut mieux ça plutôt que l'inverse, parce que, moi, je pense que vous n'avez pas beaucoup d'autres solutions que de démonter votre perron. De démonter votre perron, de faire une semelle de béton, de faire donc une fondation. désolidariser de votre de la maison et que vous remontiez votre perron, ce qui fait que du coup il va plus bouger, parce que là pour l'instant ce que j'imagine c'est que les quelques mouvements que faisait la maison autrefois, bah le perron il suivait, là le perron il est tout seul, donc si ça bouge un peu et donc lui il n'a pas été stabilisé par de la même façon que le reste, je pense que vous n'avez pas beaucoup d'autres solution. Vous m'avez envoyé les photos, effectivement, là, je les ai sous les yeux. C'est manifeste. Je pense qu'on est dans cette solution. Alors, de toute façon, faites en sorte qu'il y ait quand même plusieurs millimètres entre la maison et votre voire un centimètre, bon, et puis évidemment vous pouvez remplir ça de, alors déjà je pense que j'ai cru voir dans votre mail que vous m'aviez envoyé, donc vous y avez mis du mortier et du silicone.
Ah non, ça date du début du siècle aussi, hein. Oui. Et lorsque j'ai fait faire l'analyse de sol, on m'a dit il se pourrait que ce soit un défaut de fondation du perron, mais enfin depuis tant
Mais ça revient à ce que je vous dis. C'est-à-dire que, effectivement, maintenant, vous avez des fondations extrêmement rigides sur votre maison et vous avez des fondations flottantes, si j'ose dire, sur votre perron. Donc, il faut que vous refassiez les fondations de votre perron. Je ne pense pas que vous ayez d'autres solutions. Alors, ceci étant, votre rénovation, elle a eu lieu en 2011. Oui. J'imagine et j'espère que vous avez pris une assurance dommage-ouvrage.
Ben non, c'était une rénovation intérieure.
Eh ben voilà, mais intérieure. Attendez, intérieure avec des 8 piliers, vous appelez ça de l'intérieur, c'est de la structure. Bon, c'est pas grave. Sinon, je vous aurais dit, vous pouvez toujours tenter le coup d'informer votre assureur au titre de la décennale. Mais d'un autre côté, ça m'étonnerait que ça marche. Hein, demandez toujours la décennale à l'entreprise qui a
beaucoup appris, hein, à force de vous écouter. Maintenant, je ne ferai plus les mêmes erreurs, c'est sûr.
Ah bah c'est bien, merci.
C'est sûr.
là, c'est une satisfaction morale.
Oui, on apprend beaucoup. Hein.
Merci Odile, en tout cas, pour votre appel. Merci beaucoup.
À
très bientôt. Christian, pour terminer...
Vous avez entendu, là?
Non, je n'ai pas entendu.
Ah, vous n'avez pas entendu.
Ça vous fait plaisir.
Ah bah oui, hein, bah écoutez.
Quand on vous caresse la glotte.
Mais ça doit vous faire plaisir. Ça doit vous faire plaisir à vous aussi.
Mais bien
vous y êtes pour beaucoup.
Mais,
hein.
Mais vous savez que, évidemment, je suis très fier de tout ça. Mon cher Christian, on termine avec votre coup de cœur de ce samedi matin.
Oui, coup de cœur pour le bilan des subventions de l'ANA, l'Agence Nationale pour l'Habitat, en 2019. Donc ce rapport qui a été publié il y a quelques semaines fait état d'une distribution, tenez-vous bien, de près de 1 milliard d'euros en aide à la rénovation et à l'aménagement de la maison. 970 200 euros exactement pour la rénovation de 155 000 logements. C'est quand même pas mal. C'est en forte augmentation par rapport à 2018 et on sait que 2020, ça va être encore majoré. Alors, les deux priorités de l'agence, eh bien, ça a été la lutte contre l'habitat indigne et la lutte contre la précarité énergétique. Ce sont deux points qui vont être effectivement pointés, ciblés pour l'année 2020. Alors on note aussi une nette augmentation des rénovations globales, ce qui est, je pense, une excellente chose. On voit, sauf si on oublie le perron évidemment, mais à part ça, notre auditrice Odile était très satisfaite de sa rénovation globale. C'est en rénovant globalement qu'on obtient les meilleurs résultats en confort, mais aussi en économie d'énergie. On peut arriver à pratiquement aujourd'hui des maisons passives, voire des maisons à énergie positive. On va être dans l'ère où on va pouvoir faire des rénovations et pas seulement des constructions. On va aboutir à de très faibles consommations, voire avec justement, bah on en parlait, les panneaux photovoltaïques, avec aussi donc des maisons qui vont produire plus d'énergie qu'elles n'en consomment. Ça vaut vraiment le coup. Et bravo à l'ANA pour son action en 2019. On surveillera 2020. Hein. Faut pas passer sur...
Qu'est-ce qui va se passer en 2020
sur ça va être difficile.
Ça va être un peu compliqué. Ouais. Enfin, croisons les doigts, espérons que...
Faites confiance aux entreprises.
Ne soyons pas pessimistes, bien sûr.
Et surtout des vrais pros.
Christian Pesset, c'est terminé, notre rendez-vous maison. Oui. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine.
Bien sûr.
Vous le savez, on est là tout l'été avec Christian pour votre rendez-vous de maison comme pour tout le week-end des experts. Et d'ailleurs, dans un instant...